Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Bienvenue tout le monde. Autre émission de Ça tient la route avec mon copilote Alain Mécana. Salut Alain.
Bonjour Benoît.
Alors, encore une semaine bien remplie. Hein? On pourrait faire de l'actualité pendant une heure. Ça bouge de ce temps-là beaucoup. T'as des petites actus de préparer. On va en parler dans quelques instants. On va avoir comme invité, je trouvais ça important parce que on parle de pénurie de puces électroniques, on parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle de baisse de vente dans les concessionnaires. Mais il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre dans le monde automobile. C'est assez criant. Mm-hmm. On manque de vendeurs automobiles, on manque de mécaniciens de toutes sortes. Et on va avoir Louis-Martin Janard qui va être avec nous. Louis-Martin a fondé Canada Motor Jobs, qui, malgré son nom anglais, est bien du Québec, vient d'ici. Mais Canada Motor Jobs est implanté aussi au Canada anglais et aux États-Unis. Donc, on a des ramifications un peu partout à travers l'Amérique du Nord.
Donc, les gens qui se demandent « qu'est-ce que je veux faire si je veux travailler dans l'automobile » peuvent aller là.
Je pense que c'est l'endroit où aller parce qu'on affiche beaucoup, beaucoup d'emplois, évidemment. Mm-hmm. Mais Louis-Martin est à même de voir là où il y a le plus de demandes parce que lui vit là-dedans 24/7. Alors, il va venir nous en parler tantôt. Ça va être une entrevue fort intéressante. Et en essai routier, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui?
Ah, une petite voiture très banale qui s'appelle, là, et là, retenez votre souffle, RC350 F Sport Blackline Special Edition 2021.
Ça, c'est marqué sur la valise en arrière.
Là, point ça com. Va... Ouais,
point c'est ça. Point com.
C'est très long, mais c'est et étonnamment, c'est un coupé. Donc, ça ne devrait pas être si long que ça, mais c'est une voiture, une édition... spécial pour faire parler du RC, du coupé RC chez Lexus, dont on n'entend pas vraiment parler depuis quelques années. C'est ça que j'ai essayé, ouais.
Ah bon, ben moi, je vais avoir la RCF. En fait, cette semaine, on était retardés parce qu'on a de jeunes amis qui ont été faire de la piste et ils ont un petit peu achevé les pneus,
ils ont
mettons.
Abîmé, ouais, ça arrive.
Alors, on a remis des pneus neufs, alors je vais l'avoir avec des pneus tout neufs. Et moi, je vais avoir cette semaine, on va parler d'un petit bolide, littéralement. C'est Mercedes GLA. On a complètement refait la GLA l'an dernier. En fait, là, les modèles sont là depuis à peine quelques mois sur la route. Et j'ai la GLA 45 AMG fait 382 chevaux dans un moteur de 2 litres turbo. En fait, c'est le moteur 2 litres turbo le plus puissant. Il y a même une version S en Europe qu'on n'a pas ici, qui est à 421 chevaux avec le même moteur.
Est-ce qu'on retrouve un peu l'âme de Mercedes? Parce que beaucoup de gens décriaient cette
en fait,
absence.
En fait, ça me fait beaucoup penser en termes de format à une Golf R. Sauf que, puis là, écoute, là, il y a des modes normal, sport, sport plus, track, manuel, palette au volant, des pneus de 21 pouces, là, tu peux sérieusement t'énerver avec ça si tu veux. Je vais vous en parler un petit peu plus tantôt.
Oui.
Donc, on était dans les actualités.
Oui.
Qu'est-ce que t'as au menu cette semaine, toi?
On parle d'éclairs, et non pas d'éclairs au chocolat, on parle de Lightning, en fait, parce qu'on connaît maintenant le nom de la camionnette électrique que Ford va commercialiser pour 2023, mais qui va commencer, dont la production va commencer le printemps prochain, printemps 2022. Donc, ce sera la Ford Lightning.
Et là, évidemment, on entend encore les puristes dire « Oh, le Lightning, c'est un V8! »
Exactement, les fins amateurs de camionnettes se rappelleront que ce nom-là a été utilisé occasionnellement par Ford depuis 1993 pour identifier les versions les plus performantes sur route. Important de spécifier, de sa camionnette F-150. Mais comme tu le dis, là, les éditions passées avaient droit à un V8 ou un V8 à compresseur qui était quand même assez puissant malgré
tout.
On parlait pas de 600 chevaux, mais c'était quand même à l'époque... 340 chevaux, je pense, en 93.
Ouais, quelque chose comme ça. En fait, il y a eu deux. Il y a eu 93, puis il y en a eu un autre en 99, je pense, qui était jusqu'en 2003, si ma mémoire est bonne.
Exact.
Je retourne dans mes chiffres.
Le Lightning 2023 aura quand même droit à une mécanique intéressante qui va être évidemment entièrement électrique, là, c'est la grosse différence. Autre différence à prévoir entre le nouveau Lightning et les prédécesseurs, c'est que Ford va en faire un véhicule adapté à toutes les circonstances, pas juste sur route, mais aussi hors route. Et il y a aussi du remorquage. On a vu avec des vidéos là, publiées en ligne de comment ils pouvaient remorquer un train au complet. Là, donc, il y a vraiment cette notion d'être aussi très utilitaire. Ce qu'on sait, parlant de performance, c'est que le véhicule va être quand même assez rapide et assez efficace sur route. Ford a promis un 0-100 km/h plus court que celui des Lightning précédents, qui était à 7,2 secondes au 0-100 km/h. Évidemment, l'électrique permet ça. Autre chose qui a été révélée par le PDG de Ford, Jim Farley, c'est que le Lightning tout électrique pourrait alimenter votre maison pour plusieurs heures durant une panne de courant. Ce qui veut dire qu'il va avoir un chargeur bidirectionnel à bord, une bonne nouvelle. Ce ne sera pas une exclusivité parce qu'on le sait, ça s'en vient comme technologie dans la plupart des véhicules électriques d'ici 3 à 5
exact.
Ans.
Exact. On en a parlé du côté de Lordstown, du côté de Rivian, du côté de Tesla.
Exact.
Bon, effectivement.
Ça
là,
prolonge un peu la capacité du F-150 hybride actuel de servir de génératrice sur un lieu de travail ou peu importe. Donc, c'est un peu cette logique-là. J'ai hâte de voir le prix de cette bête qui va...
Oui, c'est la question qui est revenue le plus souvent sur mon Facebook.
On va le savoir au printemps prochain.
Probablement que Ford veut savoir combien GM va vendre le sien, combien Tesla. Le Tesla l'a annoncé en bas de 50 000, son Cybertruck de base. Donc, je pense que ça va être bon pour le consommateur qui en ait plusieurs, parce qu'on devra trouver un juste milieu.
Ouais. Ben, tu sais, puis il y a des études qui le disent encore cette semaine, le prix des véhicules descend parce que la production de batteries augmente beaucoup. C'est de trouver juste le bon moment où le prix est raisonnable puis t'es le premier à le faire.
Exact.
Puis ça s'en vient, je pense, 2023 vont être des années critiques. De commencer la production au printemps 2022, c'est un peu serré, mais c'est peut-être qu'ils vont arriver avec une camionnette justement à 55 000 $ qui est entièrement...
Ben voilà, on va voir. Fait que pour le moment, non, il n'y a pas de prix qui a été annoncé.
À suivre.
Autre nouvelle.
Mercedes-Benz aussi fait de l'électrique, mais dans les fourgonnettes, imagine-toi donc.
Ouais,
Je ne sais pas si on va l'avoir ici. On a vu le véhicule concept en Europe, appelé EQT, justement, qui a toutes les apparences d'une mini-fourgonnette. Écoute, ça pourrait être une Chrysler Pacifica tellement que les lignes sont typiques.
Oh oui, effectivement. En fait, c'est une vraie... Il y a des portes coulissantes et tout. Là. On est vraiment dans la fourgonnette. Là.
Le véhicule est conçu pour accueillir 5 ou 7 passagers et tout leur bagage. Évidemment, comme tu le dis, 2 portes coulissantes à l'arrière. Mercedes a déjà le plan de construire un fourgon commercial appelé EQV. Donc, le QT s'ajoute un peu à ça pour créer une espèce de gamme de deux véhicules.
Le EQV, qui est un peu la Vito là, qu'on n'a pas ici, là, qui est le modèle européen.
On a,
Puis le modèle le T va avoir une version T à essence qui va être renouvelée. Et à partir de ça, on fait une version électrique aussi. Là.
Exact. Ouais. Évidemment, on a hâte de voir le résultat final. Ce véhicule-là va être mis en marché en Europe quelque part en 2022. C'est un peu ça le problème, c'est un format qui m'apparaît tout à fait naturel pour les routes nord-américaines, mais on n'a pas encore confirmation et je serais surpris.
Surtout,
c'est ça.
Puis surtout, ce que on n'en a pas beaucoup dans ce format-là. C'est ça qui est intéressant parce qu'on a une fourgonnette. Bon, il y a une Pacifica qui est hybride branchable, on a un peu d'autonomie, mais on a une Sienna avec moteur hybride, mais il n'y a pas d'autonomie. Mm-hmm. Fait que tu sais, il n'y a pas vraiment de véhicule encore vraiment familial, électrique, auquel les gens pourraient dire ça, pour les 3 enfants, la famille, les bagages et tout le branlant, on peut y aller.
La Mercedes EQT est le fruit d'un partenariat avec le groupe français Renault, qui, on le sait, fait partie de l'alliance Renault-Mitsubishi-Nissan. Renault produit le Kangoo en Europe, et celui-là, évidemment, n'est pas aussi vendu chez nous. On pourrait parier que peut-être un Nissan Quest pourrait être dérivé de tout ça? On peut spéculer.
C'est sûr que, considérant les montants d'argent qui vont être investis dans les développements technologiques pour l'électrique, on n'a pas fini d'entendre parler d'alliance.
Non, il va y avoir des croisements, c'est certain, exactement.
Il va en avoir beaucoup parce que, à la base, tu sais, on parle souvent de sonorités particulières pour un V8, de développement technologique pour des moteurs à essence. Mais des moteurs électriques, là, essentiellement, c'est un paquet de batteries dans une planche en dessous d'un véhicule. Alors que vous soyez chez Nissan, Mitsubishi, Mercedes, BMW, name it, là, on a à la base, ce qui va faire la différence, c'est l'habillage, la présentation, parce que l'autonomie va varier un peu, mais on va avoir entre 400 et 500 pour à peu près tout le monde. Ça va monter un peu, mais on peut beaucoup plus facilement partager ces moteurs-là. Tu sais, Chevrolet aura partagé un V8 350 avec, Renault.
Un V8 Renault? À part la Formule 1.
Ben, c'est ça. Ouais. Ça marche pas. Non, alors que dans l'électrique, on va voir ça régulièrement parce que ça n'a plus la même signification à ce niveau-là. Tout ce qu'on veut, c'est se rendre du point A au point B et d'avoir une bonne autonomie.
Pour faire un peu de pouce sur la nouvelle, le EQT est quand même, pour être vendu de façon relativement abordable, batterie, somme toute, assez modeste, avec une autonomie de 260 km par charge. C'est pas beaucoup, là, mais c'est suffisant pour déplacer des gens, puis ça s'indique que ça pourrait être vendu
en
à un
Europe,
prix raisonnable.
C'est ça. En Europe aussi, c'est les distances à parcourir sont un peu plus courtes. On parle d'alliance. On va rester dans l'alliance. Toyota et Subaru, on le sait, se sont unis pour les technologies électriques. Et cette semaine, Subaru a présenté la version véhicule qui va s'appeler le Solterra. Le Solterra, en fait, c'est du latin pour soleil et terre. Solterra.
Bon.
Qui est en fait le même véhicule qu'on a présenté il y a à peine quelques semaines chez Toyota, le BZ4X.
Là. Ah, ben oui.
Donc, on a présenté ce véhicule-là.
C'est un VUS électrique, donc.
VUS électrique. On dit qu'en termes de format, ça va ressembler à un Forester. Donc, on est à peu près dans les mêmes eaux qu'un Forester. On n'a pas donné de détails sur l'autonomie, le prix. Tout ce qu'on sait ce qu'on a dit, c'est que les batteries vont avoir entre 50 et 100 kWh. La plateforme, c'est la plateforme TNGA de Toyota. Ça, c'était déjà annoncé. Bon, on la rebaptise la plateforme ESGP chez Subaru. Mais à la base, c'est exactement la même chose. On parle d'un lancement des ventes qui vont être à la mi-2022. Donc, c'est dans un an. Ça va probablement être un modèle 2023 aussi. Donc, les productions devraient être assurées par des usines qui vont être en Chine et au Japon. Et on va ajouter ça à la gamme des produits Subaru à partir de l'an prochain. Autre chose qui vient de sortir, qui est intéressante, les fabricants de puces électroniques s'unissent pour demander de l'argent. Parce que là, il y a beaucoup de pression auprès des fabricants de puces électroniques. On le sait, là, on ne reviendra pas sur le débat, ça fait 6 mois que ça dure. Là, il y a une pénurie qui n'est pas terminée, qui se terminera probablement pas en 2021. On parle d'allonger ça jusqu'en 2022 et certains commencent à dire qu'avant de revenir à la normale, ça pourrait être 2023.
Ben, c'est pas une pénurie où il s'en produit moins, c'est que la demande a comme explosé.
Non, la demande a explosé et il y a eu, on l'a dit, il y a eu un incendie dans une usine au Japon. Il y a eu des problèmes avec une usine au Texas. Là, il y a des fabricants qui se réunissent pour, bon, il y a Apple, Microsoft, Google, Intel, on peut les nommer, les gens connaissent un peu les compagnies. Et ça va être une alliance qui va s'appeler Chips for America. Hein? Ça prend un nom. Alors, est-ce que c'est des Pringles ou des Lay's?
J'aurais dit qu'on aurait suivi Frito-Lay, mais bon, chacun son truc.
C'est ça. Donc, c'est un projet de loi. Non, le projet de loi s'appelle Chips for America. La coalition s'est baptisée Semiconductors in America, qui comprend bon aussi Amazon et tout et tout. En fait, là, il y a une petite guéguerre entre ceux qui produisent des puces électroniques pour l'automobile et ceux qui produisent des puces électroniques pour les téléphones, les ordinateurs,
ouais,
les consoles de jeux.
Au sens très large, ouais.
Parce que là, on voulait, du côté du gouvernement américain, orienter un peu la fabrication pour aller vers l'automobile parce que les besoins sont criants, parce que là, les concessionnaires commencent à manquer d'auto, les usines tournent au ralenti. Bon. Sauf que ceux qui fabriquent des puces électroniques pour le monde électronique et pas l'automobile ont dit wow, attendez un peu là. nous autres aussi là, on a besoin,
on a
de la demande.
Ouais, c'est ça.
Donc là, il va y avoir un débat. Les fabricants d'iPhone ont entre autres déclaré le mois dernier qu'ils perdent 3 et 4 milliards de dollars de ventes en cours de trimestre qui se termine en juin en raison de pénurie de puces. Mm-hmm. Donc la pénurie de puces n'affecte pas que les constructeurs automobiles. Donc, là, il va y avoir ce groupe-là qui va faire pression. Parlons ça d'un groupe de lobbyistes,
ben
on pourrait voir
ben
comme
oui.
ça, qui vont faire pression parce que on a demandé à Joe Biden de fournir 50 milliards de dollars pour justement, à moyen terme, assurer l'indépendance en puces électroniques du côté des États-Unis. C'est-à-dire ne pas avoir à aller ramasser nos puces en Corée, en Chine, au Japon. D'avoir une production nationale qui va être capable de fournir. Bon, ça, un, faut la concevoir. Il y a des groupes qui ont levé la main. Intel, entre autres, a dit oui, on est prêt, mais c'est parce qu'il faudrait bâtir une autre usine. Mm-hmm. Puis avant qu'on puisse fournir des puces, un an et demi peut-être. Là.
Ouais.
Alors là, on s'est réunis du côté des fabricants américains pour dire bon, associons-nous, mettons de côté nos rivalités pour un temps, puis voyons ce qu'on peut faire chez nous. Puis je pense que on a tout intérêt du côté de l'industrie à faire ça parce que, bon, évidemment, on va assurer de l'emploi chez soi. On va également assurer un approvisionnement régulier en étant plus dépendant. Puis ça, on l'a vu pour la Chine, on l'a vu pour plusieurs pays,
mm-hmm.
Où on a ralenti des économies tout simplement en raison de notre trop forte dépendance
ouais.
aux biens et matériaux fabriqués ailleurs.
Ben, il y a... Je veux dire, ça va se régler de façon géopolitique, mais il y a certaines hypocrisies des fabricants de puces, parce que, tu sais, Qualcomm, Intel, IBM, tous ces fabricants-là, ils ont maintenant une expression, on appelle les fabless. Ce sont des gens qui fabriquent, mais qui fabriquent pas vraiment, parce qu'ils vont tout faire en Asie. Mais cette impartition-là, c'est maintenant c'est le backlash
c'est ça.
De ça. On reçoit maintenant l'après-coup de cette
stratégie. Oui, c'est les résultats d'une politique comme ça, parce que ça coûte souvent moins cher de le faire fabriquer ailleurs, parce que ici, évidemment, le coût, le taux horaire et tout est plus cher. Sauf que, ben là, comme tu dis, on paye pour.
Mm-hmm.
Alors voilà, c'était nos petites nouvelles. Évidemment, il y en a d'autres, mais on a d'autres sujets à l'émission. Fait qu'on va prendre quelques petites minutes pour une pause et on va revenir avec notre premier invité, Louis-Martin Jalard.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette.
Vous le savez, on est en pénurie et en pandémie depuis déjà un an et plus. Et au niveau des emplois, c'est pas facile partout et l'automobile ne fait pas exception à la règle. Notre invité aujourd'hui est le fondateur de Canada Motor Jobs. C'est lui qui s'en occupe. Il était auparavant dans un autre organisme qui s'appelait au Québec Auto Jobs. Louis-Martin Jalard, salut.
Bonjour.
Alors, Louis-Martin, tu vas me permettre de te tutoyer parce qu'on se connaît depuis déjà très longtemps. Je me sentirais un peu mal de te vouvoyer à matin. Alors, on est des amis d'assez longue date. Puis je pense que tu es la personne idéale pour parler. D'abord, de parler de Canada Motor Jobs. C'est quoi Canada Motor Jobs? Ça s'adresse à qui au juste?
Merci Benoît. En effet, je suis dans l'industrie depuis plus de 30 ans déjà, donc ça donne une idée de mon âge qui avance tranquillement comme la tienne.
Oui.
Les gars, regardez ça positif.
Canada Motor Jobs a été fondé en 2019 par deux passionnés, mon associé Sylvain Marcotte et moi. On a décidé de refaire un site d'emploi spécialisé dans l'industrie automobile. Mais on s'est attardé à l'adapter à la réalité des années 2020 et plus. Donc, de rendre ça très moderne, de rendre ça fonctionnel sur appareils mobiles, d'apporter des nouveaux outils, autant pour les employeurs, mais aussi beaucoup de nouveaux outils pour les chercheurs. Donc, on essaie là d'aller plus facilement pour les chercheurs d'emploi et aussi pour les employeurs.
Une chose que je dois souligner, Louis-Martin, pour avoir été sur ton site plusieurs fois, là, c'est canadamotorjobs.com. C'est pas bien compliqué.
Exactement.
C'est un site qui est extrêmement convivial parce que les gens, souvent, les sites d'emploi, là, faut envoyer un CV qu'on a déjà fait, l'envoyer de manière numérique, il y a de longs questionnaires à remplir. Chez vous, je pense que l'élément clé, c'est que vous avez trouvé une façon extrêmement simple, efficace et rapide de faire le tri, autant pour l'employeur qui cherche un employé que pour l'employé qui va appliquer sur un emploi. Là.
En effet, c'est ça la grosse différence. On a regardé ça et puis Sylvain, lui, mon associé, était beaucoup d'expérience au niveau du côté des concessionnaires automobiles. Il a embauché plusieurs personnes dans le passé, puis il est arrivé avec les difficultés qu'il vivait. Le tri des CV, entre autres. Il n'y a pas un curriculum vitae qui se ressemble quand on regarde ça là, au niveau format papier.
Effectivement.
Les gens aussi maintenant, la plupart ont regardé un peu les gens ont pour la plupart, pas d'ordinateur à la maison. Ils ont juste un appareil mobile. Et on s'est dit, ben comment on va faire pour arriver avec ça? Donc, on a mis de côté complètement le CV papier. Les gens se créent un profil chez nous Il y a pratiquement rien écrit, mis à part peut-être leur nom, prénom, adresse et le nom de l'entreprise où ils travaillaient. Mais pour le reste, c'est toutes des cases à cocher. Et même chose pour l'employeur. Quand il rédige une offre d'emploi, c'est toutes tout est pré-rempli. Il y a juste à sélectionner ce qu'il cherche avec ses critères, ses exigences.
C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez créé un processus de sélection. Puis on a fait l'exemple ensemble. Si un employeur cherche un employé, quand il remplit les cases qu'il désire, ça va être rouge, jaune ou vert. Rouge, ouais. Ça correspond pas vraiment aux gens qui cherchent. Jaune, oui, mais il y a certains critères qui sont pas là. Puis vert, ben c'est un bon candidat. Fait que c'est beaucoup moins compliqué. Exactement. Que de passer à travers 150, 200, 300 CV. Là, on peut dire, OK, boum, voici les verts, j'en ai 12. Bon, ben regardez ces 12-là.
Mm-hmm. Exactement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un algorithme de classement des candidatures en fonction des critères de recherche de l'employeur, mais aussi les attentes des chercheurs d'emploi. Donc, si, exemple, un employé désire gagner un salaire X ou Y, et puis l'employeur n'est pas prêt à payer ça dans son offre d'emploi, bien, on va le classer à la bonne place. On évite aux gens de perdre du temps.
Exact.
C'est surtout ça, le système. Donc, c'est un système de classement. Et souvent, quand je l'explique, au bout de 15-20 minutes, quand j'ai fini mon exposé de notre site, les gens disent « Ah, c'est comme un site de rencontre.
» C'est bon!
Ben, c'est comme ça maintenant, c'est plus vite.
Ben, en fait, c'est un peu ça, parce que c'est un employé qui veut rencontrer un employeur ou vice-versa. Là.
Exactement ça. Donc, ça. Quand on met cette image-là, des gens, à un moment donné, me disaient ça. Après, une couple de fois, j'ai adopté la description. C'est un site de rencontre pour employeurs et employés dans l'industrie automobile.
Tinder sur quatre roues.
Ouais, c'est un Tinder automobile.
Exactement.
Je vais juste le préciser tout de suite parce que je viens d'aller sur le site. C'est offert en français, en anglais et en espagnol. Donc, c'est vraiment adressé. Ça s'adresse à tout le monde, là, effectivement. Ouais.
Ça, c'est un point intéressant. C'est que l'employé ou l'employeur peut compléter son profil dans la langue de son choix. Donc, exemple, quelqu'un qui est un employeur qui serait dans le West Island ou un employé qui est plus dans le West Island ou même en Ontario décide de faire son profil en anglais parce que c'est plus facile pour lui. Bien, l'employeur peut regarder son profil dans une autre langue, soit en français ou en espagnol.
Alors, ah oui, ben donc c'est intéressant. Puis là, vous êtes évidemment, ça s'appelle Canada Motor Jobs, donc vous êtes d'un océan à l'autre, c'est ça qu'on dit?
Oui, exactement, d'un océan à l'autre, et c'est géolocalisé. Donc, okay. Les gens qui sont, exemple, à Toronto, ben, vont voir les offres d'emploi près de chez eux, à Toronto. Et ceux qui sont à Montréal voient ceux de Montréal. Ceux de Vancouver voient les offres de Vancouver. Puis, probablement, la question est pourquoi l'espagnol? Ben, c'est qu'on a le pendant américain qui est USA Motor Jobs et aux États-Unis, surtout dans le sud.
Ah oui. Habla espagnol. Habla espagnol.
Oui, exactement. Oui. Exactement.
Est-ce qu'au niveau. Vas-y. J'avais une question.
Ben, on est en train de regarder là, pour ajouter probablement des langues, là, surtout, disons, dans l'ouest du Canada, peut-être y aller avec le mandarin.
Pour la région de Vancouver.
Ouais, exactement.
Ouais.
Est-ce qu'on peut voyager autant avec au niveau de la nature des emplois qui sont offerts? Parce que souvent des gens, moi j'ai eu souvent des questions des jeunes au Québec qui étudient puis qui aimeraient être designer ou peu importe, là, mais qui aimeraient aller à l'emploi des fabricants, pas nécessairement au Québec, mais au Canada, même aux États-Unis. Est-ce qu'il y a possibilité de faire ça avec votre site?
Oui, il y a possibilité. Présentement, je vous dirais que c'est pas un gros marché pour nous. Quoi qu'on a eu BRP, Bombardier, le récréatif, qui a affiché des postes là, dans le passé. Mais présentement, là, si on va sur le site là, aujourd'hui, je crois pas qu'on en a énormément là, au niveau de la fabrication. C'est à venir.
Là, Louis-Martin Janard, explique-nous un peu, parce que là, on a une pénurie de main-d'œuvre dans le monde automobile. C'est pas d'hier, là. On parle de ça depuis 20 ans.
Ah oui, on en parle en 2012.
Moi, je me rappelle d'avoir fait des articles là-dessus avec différents regroupements au début des années 2000. Mais là, qu'est-ce que la pénurie a de particulier en ce moment, là?
Ben la pénurie, oui, elle est là depuis plus de 20 ans. Tu te souviens, lors de mon passage au comité paritaire, puis dans mes anciennes vies, on parlait vraiment de pénurie de main-d'œuvre. Là, ça fait longtemps. Et on disait aux employeurs, ben faites attention, les salaires, faudrait s'ajuster. On n'est pas compétitif avec les autres secteurs d'activité. Donc nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu une érosion du bassin de main-d'œuvre de l'industrie automobile qui s'est dirigée vers d'autres secteurs. Comme la construction, par exemple, ou l'aéronautique. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'industrie automobile. Maintenant, c'est sûr que si on parle au niveau des ventes, ben présentement, vous en avez parlé beaucoup, la pénurie des processeurs, des puces électroniques, ce qui fait que l'inventaire dans les concessionnaires automobiles est assez bas, merci.
Ah oh, oui, là, on est au plus bas. Non, effectivement. Effectivement.
Donc, les vendeurs n'ont pas grand-chose à vendre, ça fait que là, ils veulent pas tout changer d'emploi ou ils vont changer de secteur, ils vont préférer aller... exemple, vendre des électroménagers ou peu importe,
ouais.
Ces gens-là ont besoin d'une paix à la fin du mois.
Exactement. Mais là, qu'est-ce qu'on voit comme solution? Parce que là, de toute évidence, la solution d'essayer d'attirer les gens dans ce domaine-là n'a pas l'air à fonctionner très bien parce que ça fait longtemps qu'on essaye et on n'a pas vu des résultats, en tout cas évidents. Est-ce qu'on doit regarder du côté de l'immigration? On l'a fait dans plusieurs domaines. Moi, j'ai deux beaux-frères qui ont une ferme laitière, qui ont des employés guatémaltèques et mexicains depuis maintenant 5-6 ans. On en voit dans la construction, on en voit les maraîchers engagent et des quantités industrielles d'immigrants pour la période des récoltes. On peut-tu essayer de favoriser de l'immigration où il y aurait des gens qui connaissent bien la... En fait, tu sais, on parle de mécanique. Faut parler de technicien maintenant. Parce que, tu sais, la mécanique, comme on la connaît, a énormément changé. Mais c'est une solution, d'après toi, Louis-Martin, d'amener des gens via l'immigration dans ces jobs-là?
Ben moi, j'ai... Il y en a qui aimeront pas ce que je veux dire, mais... Moi, on parle de pénurie de main-d'œuvre. J'aime bien dire on a une pénurie d'emplois de qualité dans l'industrie automobile.
Okay.
Et il faudrait commencer par corriger les salaires. Les salaires sont très bas pour la plupart des postes. Ce qui fait que nos écoles, nos centres de formation professionnelle sont vides. Les jeunes aujourd'hui, avant de s'enligner dans une carrière, ce qu'ils font, ben ils vont sur Google et puis ils regardent combien ça paye être mécanicien, combien ça paye être débosseleur, combien ça paye.
C'est ça. Puis
quand ils voient les salaires, ils changent de secteur. Nos écoles sont vides et c'est ce qui crée là, que le bassin est carrément vide. Maintenant, pour revenir à la question, l'immigration, je m'excuse, mais le technicien, peut-être qu'il va partir d'un autre pays, du Maroc ou peu importe, pour venir ici parce qu'il va voir que le salaire est peut-être comparativement chez lui alléchant. Mais quand il va découvrir qu'ici aussi, dans le secteur de la construction, ça paye plus, il va quitter. Donc, on tourne en rond.
Ouais.
Il faut avoir une solution, là, une solution.
Ça va être une solution monétaire, à ton avis, parce que c'est vrai que les jeunes, là, en ce moment, ils ont le choix, parce qu'il y a de la pénurie de main-d'œuvre partout, là. Je veux dire, les compagnies s'arrachent les cheveux pour trouver de la main-d'œuvre compétente, formée.
Mmh. Ouais.
Et on est obligé d'offrir mieux. Parce que les jeunes vont là où l'offre est la meilleure. C'est aussi simple que ça. Donc,
ouais, puis je le vois régulièrement. Quand je vois une offre d'emploi, je vais le nommer, là, Tesla, qui est le fabricant de véhicules électriques,
ouais.
Qui met une offre d'emploi chez nous de technicien et qui indique qu'il est prêt à payer entre 30 et 40 $ de l'heure minimum, plus le... Il y en a des candidatures.
Ah oui, à ce prix-là, là, on trouve du monde.
Il y en a.
Les voitures électriques vont transformer aussi le marché de l'emploi automobile.
Ben oui, puis ils vont transformer aussi l'emploi comme tel, parce que là, une formation pour jouer dans un véhicule électrique est autrement plus longue, compliquée et ardue qu'une formation originale pour un mécanicien. Mais bon, on parle de pénurie. À quel endroit qui manque le plus de monde en ce moment là, dans le milieu automobile?
Bon, présentement, là, écoute, je dirais tous les postes, là, mais les plus marquants présentement, bon, conseiller en vente, véhicule neuf, véhicule d'occasion, mécanicien, débosseleur, ça fait des lunes qu'on est en pénurie pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est les gros secteurs là, où il nous manque là, beaucoup de main-d'œuvre. Les garages indépendants, les ateliers indépendants cherchent et ne trouvent pas. Ça multiplie les annonces, mais on essaie toujours de leur dire, écoutez, il faudrait augmenter les conditions de travail, il faudrait augmenter les salaires. le message ne se rend pas toujours. Là,
non, le message ne se rend pas toujours et les ateliers indépendants n'ont pas les capacités à payer comme un concessionnaire, par exemple.
Ben, ça, c'est surprenant parce que quand on est arrivé, nous, il y a 2 ans déjà, là, en ligne, et on disait, on regardait les salaires offerts et puis on a commencé à encourager très fortement les employeurs à afficher le salaire sur l'offre d'emploi pour stimuler un peu le mouvement. Et puis les ateliers indépendants me disaient, ben, je suis pas compétitif avec un concessionnaire. Et puis, je leur demandais, ben, combien vous payez? Puis, finalement, pour se rendre compte que beaucoup de garages indépendants paient plus que le concessionnaire.
Ah, oui.
Il y a eu un changement dans les 10 dernières années.
Mais
alors,
ça,
cette tendance-là n'est plus vraie.
Bon, et est-ce qu'il y a eu des réunions? On parlait tantôt des comités paritaires. Il y a l'AIA qu'on connaît, bon, qui est mm-hmm. l'association pan-canadienne. Est-ce qu'il y a eu des réunions? Est-ce qu'il y a eu des rencontres pour un peu parler de ce fait-là, pour essayer de voir si on ne peut pas, par exemple, approcher le gouvernement? On le sait, à peu près tous les secteurs de l'économie ont approché le gouvernement pour avoir des meilleures conditions de travail. Les employés de l'État sont encore à négocier, tant à Ottawa qu'à Québec. Est-ce qu'il y a moyen de voir s'il y a quelque chose à faire pour améliorer les conditions de travail dans ce secteur-là pour justement encourager les gens peut-être à y aller? Parce que là, si tu me dis, comme tantôt, que les écoles de formation sont vides puis qu'il y a une pénurie par-dessus, c'est pas encourageant pour les prochaines années, ça?
Non, c'est pas encourageant du tout pour les prochaines années. Et puis... je suis pas au courant là s'il y a vraiment des négociations avec différents paliers de gouvernement. C'est sûr qu'on a des comités paritaires, on a des comités sectoriels, il y a beaucoup d'organismes. C'est sûr qu'avec la pandémie, il y a bien des choses qui se sont arrêtées. Plusieurs pensaient aussi à tort que la pandémie allait enrayer la pénurie de main-d'œuvre. On se réveille
puis la situation n'est pas mieux. Ben
ça a
oui.
duré 4 semaines. Non, oui.
Exactement.
Parce qu'il y a eu une période où tout le monde était à pied, puis là, on se disait, ben comment ça va repartir? Est-ce que ça va repartir tranquillement? Est-ce que ça va repartir en fou? Puis c'est reparti en fou. Et puis, il y a des gens qui en ont profité encore plus pour quitter le secteur de l'industrie automobile.
Ben, c'est ça.
Ils se sont trouvés des emplois mieux rémunérés.
Ben c'est ça. Les gens se sont réorientés. Moi, j'ai quelques amis, c'est ça qui est arrivé, parce qu'ils sont allés dans des secteurs qui payaient mieux. Donc, je pense que la conclusion de cette entrevue-là au niveau de la pénurie, c'est qu'il faut que le secteur s'ajuste, qu'il offre des meilleures conditions de travail, puis on va probablement avoir des travailleurs qui vont se présenter.
Oui, puis quand on parle de conditions de travail, dans les dernières années, il y a beaucoup de recruteurs là, ou des gens en recrutement qui ont tenté de faire à croire aux employeurs que c'est en offrant des soupers spaghettis ou en payant... des sorties, des activités de team building qui allaient être capables de retenir les gens dans l'industrie. Je m'excuse, là, mais c'est pas ça qui va payer ton loyer à la fin du mois.
Non, un souper que spaghetti, c'est une belle soirée, mais ça n'amène pas grand-chose. Hein?
Non, exactement. Comme les concessionnaires qui ont construit des gyms, ça coûte une fortune, mais la personne, un gym, c'est le fun quand tu gagnes 80 000, peut-être que tu dis, je vais aller au gym, c'est gratuit, c'est inclus. Mais si tu gagnes 16$, je m'excuse, tu as besoin d'un autre job pour payer ton loyer, pas le temps d'aller au gym.
Ouais, le gym devient moins pertinent. Ben, écoute, Louis-Martin, merci pour le temps que tu nous as consacré. Puis je rappelle aux gens que Louis-Martin Janard a fondé Canada Motor Jobs, donc c'est Canada, comme ça s'écrit, Motor, MOTORJOBS.com. Alors, allez faire un tour. Il y a beaucoup, beaucoup d'emplois qui sont affichés là, puis le système est vraiment bien conçu. Merci, Louis-Martin, puis à une prochaine.
Merci à vous.
Salut.
Merci.
Alors voilà, c'est Louis-Martin Janard. Nous, on prend une petite pause et on revient avec nos essais.
Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette.
Dernière portion d'émission, on fait nos essais routiers comme à l'habitude. Je tiens à vous dire que le balado « Ça tient la route » peut être écouté en ligne sur vos plateformes préférées. On parle de Spotify, Apple, Google et le site du 98.5fm.ca dans la section « Balado », évidemment. Et vous allez sur annuelauto.ca. On fait une mise à jour aussi sur le site à chaque semaine. Je vous invite d'ailleurs à y aller parce qu'on fait des nouvelles tous les jours, des essais routiers. On a beaucoup d'informations qui se promènent sur le site à chaque semaine. Alain, tu as essayé le RC350. Tu recommences-moi ça, là. C'est long, on en peut finir.
J'ai pas beaucoup de temps, je vais faire ça vite. C'est le RC350 F Sport Black Line Special Edition. Évidemment, c'est en anglais, mais c'est en français aussi. C'est l'édition spéciale Black Line. Ce véhicule-là répond à la question suivante. Que fait un constructeur d'automobile quand il a un modèle dans son catalogue qui ne vend pas beaucoup, mais qui n'est pas encore tout à fait arrivé à la fin de son cycle de vie? Ben voilà, il crée une édition spéciale pour essayer de rallumer la flamme.
C'est bon.
Dans le cas du coupé RC, Lexus a donc joué la carte du luxe et de la performance, évidemment, en produisant l'édition Blackline, une version qui laisse présager qu'on aura plus de plaisir à conduire ce gros coupé qu'on en a à piloter ses autres déclinaisons, sauf peut-être le RCF, effectivement.
Oui, que j'ai en essai, en fait, un petit peu plus tard cette semaine. Mm-hmm. Je vais en probablement glisser un mot pour faire suite à ton essai cette semaine, exact. La semaine prochaine.
Petit rappel utile, qu'est-ce que c'est que RC?
Oui.
C'est la version coupée, donc à deux portes seulement, de la berline IS. RC veut dire Radical Coupe.
Ah ben oui. Okay.
Parce que je l'ai appris, écoute, je ne savais pas. Pourtant, le modèle existait depuis un petit bout de temps. La version Blackline est dérivée du RCF Spark, qui est comme une espèce de groupe optionnel plus équipé. La lettre que Lexus ajoute, c'est évidemment la lettre F pour dire FIT.
Ah, d'accord.
Il fallait que je l'explique. Comme dans Ça va vite comme le vent. La différence entre le RC et le RCF Spark, c'est que la version Spark a droit à une molette exclusive qui lui permet de choisir entre trois modes de conduite. Normal, qui s'appelle aussi Eco, parce que c'est dans l'air du temps, Sport S et Sport S+. Évidemment, tout ça est inutilement compliqué, mais c'est le fun. La molette altère le comportement de la suspension, qui est adaptative, de la boîte de transmission et de la cylindrée, pour que tout ça soit plus réactif. Il y a ça rétrograde, entre autres, automatiquement quand on ralentit, le fameux blip.
Ça donne un talent supplémentaire au pilote qui se passe bien
forcer,
bon.
Exactement.
Mais effectivement, c'est intéressant. C'est intéressant de l'utiliser parce que ça fonctionne bien.
Puis à l'oreille aussi, évidemment, on l'entend parce que l'échappement gronde autrement plus fortement quand on passe en mode S Sport Plus. Il y a aussi en option un différentiel arrière torsène à autoblocage, ce qui fait une méchante différence au niveau de la tenue de route, quand tout va très vite. Là. Et on a aussi des roues directionnelles à l'arrière au besoin, ce qui signifie qu'en virage, les roues arrière se braquent. Une petite affaire pour réduire le rayon de braquage, justement, ce qui fait une belle différence dans les lacets, pour le dire comme ça. Bref, voiture étonnamment dynamique. Le V6 au choix fait 260 ou 331 chevaux selon la version là, RC300 et RC350. Ce qui m'a un peu étonné, et puis c'est que c'est resté comme ça depuis longtemps, il est jumelé à une boîte automatique à 6 rapports, qui est tout à fait chouette, mais qui est étagée d'une façon qui fait que on aurait peut-être pris 8 rapports, tu sais, ou quelque chose comme ça. Surtout en mode régulier, souvent on réduit, on coupe un ou deux rapports pour rendre la voiture plus sportive, et ça aurait été une option tout à fait envisageable. Qui aurait pu aussi être faite. Ce modèle a aussi quelques ajouts esthétiques et ludiques intéressants. De l'extérieur, on trouve des phares Adèle à trois faisceaux, qui est un peu comme de plus ou moins la tendance dans le marché des voitures de luxe. Il y a des jantes de 19 pouces en chrome sombre et des embouts d'échappement noircis d'avance. C'est assez élégant, c'est assez chic. À l'intérieur, on a droit à une finition assombrie également avec des appliqués de bois noir. Lexus ajoute, et c'est peut-être le détail le plus intéressant de la patente, une sono ambiophonique Mark Levinson à 17 haut-parleurs. Qui est assez plaisante à écouter. Il y a un effet ambiophonique assez réussi. Là. Évidemment, pour en profiter à plein, on ne peut pas juste streamer Spotify à partir de son téléphone. Il faut quand même aller chercher des fichiers et se brancher un USB. Mais évidemment, encore une fois, il y a le fameux pavé tactile pour contrôler tout ça qui fait pousser des gros mots.
Le pavé tactile!
J'ai cherché un peu. Écoute, ça remonte à 2014, cette interface-là.
Oui, et c'est 2014, emmerdant depuis 2014.
On est en beau fusil contre ça parce que c'est pas du tout ergonomique, c'est pas du tout agréable ce qu'on a conduit. Mais tout ça va quand même vous alléger d'une somme tout à fait modique de 66 360 $. Ça situe la voiture quelque part dans le marché de la BMW Série 4 et de l'Infiniti Q60. Écoute, moi, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est un gros montant. Si on retombe tout sur mon disque, comment c'est un peu rouillé. Pas rouillé, mais un peu craqué. Parce que tu mets une voiture électrique à côté de ça, puis t'as du fun en tabarouette, puis c'est électrique. Je pense qu'on vit une période de virage où il faut vraiment voir la sensation de
moteur. C'est une pointe de tarte qui est extrêmement petite. Et il y a déjà des joueurs allemands qui offrent des voitures extraordinaire dans ce créneau-là. Alors, faut que tu arrives avec un produit j'ai juste un mot en anglais, over the top. Faut que tu arrives avec quelque chose qui en rajoute.
Il y a de la démesure à un sens
inédit, exactement. Et on trouve pas ça dans le RC. Que ce soit le RCF, que ce soit le RC350, ce sont de bonnes voitures, sont très fiables. Il y a un bon confort, l'utilisation au quotidien est intéressante. mais il manque cette magie-là qu'on a du côté des Allemands qui fait en sorte que... Voilà. Puis c'est un peu ce qui manque, puis c'est pour ça que souvent, ils ramassent la poussière d'un concessionnaire au lieu de se vendre. Je pense que ça explique la chose. Puis, parlant d'allemand, moi, j'étais dans une allemande cette semaine. En fait, j'étais dans la plus performante mécanique 2 litres sur la planète. Hein?
Wow.
Le moteur 2 litres, 4 cylindres, turbo de la Mercedes GLA 45 AMG, fait 382 chevaux. 4,5 secondes pour un 0-100. On est dans du territoire presque de voiture exotique. C'est avec beaucoup. Un petit moulin, là. Il n'y a rien là-dedans, là. Moi, je dis toujours en blague, c'est un gros pot de cheese whiz, cette affaire-là. Là. C'est vraiment pas gros. Mm-hmm. Mais ça marche en
petit Jésus. C'est aussi une pas grosse voiture. C'est une
petite
Non.
Écoute. Le format le plus proche, là, en embarquant dedans, regardant ça, c'est Golf Air.
Exact.
Moi, c'est vraiment là. On a refait la GLA, d'ailleurs, là, au complet l'an dernier. C'est un nouveau modèle qui arrive, extrêmement vive. Puis tu parlais de mode de conduite, là. Écoute, j'ai pas assez de doigts presque pour les compter. Là, il y a normal, individuel, confort, sport, sport plus, race.
Ah oui.
Race, attends
avec
un peu.
Race
dans un VUS.
Là.
Bon,
course.
Écoute, ça s'appelle un VUS, là, on va y connaître. Là. C'est une voiture.
C'est une familiale.
Peut-être un petit peu plus haute sur pattes, mais il en demeure pas moins que c'est une voiture qui est extrêmement véloce. Là. T'as même un mode manuel, tu peux essayer 10 pitons, puis tu fonctionnes avec les palettes au volant en permanence. Là. Il revient pas en drive tout seul. Là. Quand tu pèses sur M, t'es officiellement en mode manuel.
Ah oui.
Il y a juste pas de troisième pédale. Là. Ça se fait avec les palettes au volant, mais c'est très nerveux. En mode confort, j'avoue que c'est bien. Sur l'autoroute, je me suis tenu à 8.4. Donc, quand on n'est pas trop violent avec la mécanique, ça va. Mm-hmm. Évidemment, quand on le met... Le mode sport est celui que j'aime le plus au quotidien. Parce que le défaut du mode confort, comme il travail à l'économie, si on le laisse là, vous êtes rendu en 8e vitesse à 50 km/h. Ouais. C'est ça, tu sais, il fait...
Mais il fait beau bruit, en tout cas.
Non, mais... mais tu te ramasses, tu tournes à 1600 tours, puis là, t'as comme... Bon, donc, en mode sport, t'as un meilleur ratio, t'as une meilleure présentation.
Ouais.
Donc, ça, c'est le mode intéressant. Pas donné, hein? 60 000 $ de base.
Oh, quand même.
Et j'avais 14 000 $ d'options sur le modèle qu'on a.
Il doit avoir l'espèce
prêté.
De système info.
Oui, t'as les deux. En fait, t'as les deux écrans collés, qui est là avec. M-Box, là,
ouais.
Avec High Mercedes, puis tu lui demandes où est la meilleure pizza la plus proche, puis il va te donner une adresse, là. Bon, ce genre d'informations-là. Mais les écrans, je dois avouer que le système numérique de Mercedes est vraiment bien. C'est pas compliqué, l'écran est tactile. Donc, si jamais t'es un peu mêlé, tu mets le doigt sur l'écran. Bon, faut s'habituer parce que ça marche comme une tablette, comme pour changer les postes de radio, par exemple. Tu défiles le menu, puis là tu vois les postes passer, puis là tu pouf, t'arrêtes. Donc il y a une certaine habitude à prendre, mais j'avoue là après une semaine dans l'auto là ça se déroulait très bien. Donc c'est un véhicule qui est assez cher. À 74 000, on se comprend, là, pour une voiture de ce format-là, c'est cher. Mais est-ce que c'est le fun? Ah oui, c'est le fun.
Est-ce qu'on sent l'héritage Mercedes? C'est un peu le défaut des petites voitures Mercedes, souvent.
On sent l'héritage, la performance est là. Même si c'est un petit 4 cylindres, là, c'est extrêmement puissant. Et si, ma foi, vous avez les 74 000 $ vous allez adorer le véhicule. Ça, il n'y a aucun doute, j'ai eu beaucoup de plaisir.
Ouais.
Alors voilà, ça termine l'émission déjà, Alain, pour cette semaine. La semaine prochaine, je vous l'ai dit, j'ai la RCF dans le collimateur. On va avoir d'autres informations. Les invités, ça me reste à confirmer. Je vous laisse ça entre
je
les
pense.
Mains. Mais on sera là avec vous pour une autre émission. D'ici là, ben soyez prudents.
Bonne semaine.
Et on vous attend avec nous la semaine prochaine. Salut.
Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google.
C23.